Tout ce que te demande le responsable des lieux, tu dois t'y contraindre. Alors on me demande de vous demander d'éteindre les portables afin de ne pas perturber. Il y a également des cartons à distribuer pour les questions du public et d'éviter donc des prises de parole violentes ou intempestives. Message reçu. Et puis on nous demande de faire une annonce des autres tables rondes, je crois que c'est la dernière, et souligner la possibilité de la restauration. Je crois aussi qu'on est à l'heure de la NIA. Merci pour tout, c'est la Bacoche Pignard qui vous le souhaite. Avant de commencer cette table ronde, à laquelle on m'a confié la charge de modérateur, mais je ne sais pas entre qui et qui je dois modérer, puisque je suis le seul présentateur. Je pense que c'est vous, public. Vous êtes modérateur en termes de chalière entre deux. Je vais présenter donc notre orateur. C'est une vieille tradition de s'interroger sur son identité. On sait que la première question, la première parole que Moïse, Moshe Rabbeinu, a posée ou s'est posée, c'est « Mianofi, qui suis-je ? Qui suis-je pour aller devant le Pharaon ?» Et quelle est la deuxième question que Moïse a posée dans sa vie ? Qui es-tu? Qui est Hachem? Quel est son nom pour que je puisse dire à Pharaon, Hachem m'a envoyé au roi Israël. Alors, je suis heureux de saluer le grand rabbin Arié Folger, qui est un ancien chanif de la Yeshiva de Getzed, puis de la Yeshiva Mir à Yerushalayim. Il a également entrepris des études en gestion commerciale à New York University. Il est maintenant membre, depuis qu'il est en Allemagne, du comité de conseil des rabbins orthodoxes d'Allemagne. Il est également une siège au comité permanent de la conférence des rabbins européens. Il a été rabbin à Bâle avant d'être grand rabbin de Munich. Et il est mousmar, il a donc sa capacité et son diplôme rabbinique de la Yeshiva, Université de New York. Mais c'est un, vous verrez, il est francophone et tout va se dérouler en français. J'ai d'abord une mauvaise nouvelle à vous annoncer, avant de commencer le débat. Nutella n'est pas encore sur la liste, à ma connaissance. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de distribution de liste, mais je vous promets que si vous restez tous ici jusqu'au bout de la conférence, on vous donnera les coordonnées afin d'obtenir, dès qu'elles seront finalisées et imprimées. Je vais donc, écoutez, puisque je suis modérateur, je vais modérer et je vais donner la parole tout de suite au grand rabbin Folger.
Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, j'aimerais commencer par une petite histoire personnelle. Quand j'étais le rabbin de Bâle, j'étais chargé de gérer et produire la liste de kashrout de Bâle. Bâle, comme communauté, est une communauté de référence parce que mon prédécesseur, le grand rabbin Levinger, lui-même est très actif dans le monde de kashrout, et donc la liste de Bâle contenait non seulement les produits dont on a reçu de l'information de l'organisation centrale IGFKL, donc l'association des consommateurs cachers de Suisse, mais aussi de nombreux produits que le rabbin Levinger lui-même supervisait. Et donc, si on voulait avoir une liste encore mieux achalandée, on se tournait vers la liste de Bâle, c'est devenu une liste de référence, et c'était une responsabilité particulière. Alors, comme je ne suis pas francophone, pas du tout. Donc je ne venais jamais en France, je n'avais pas du tout aucune notion naturellement de ce qui se passe ici. Donc rapidement, on a commencé à se poser la question, s'il y a des produits qui viennent de France, qu'on connaît en France, qui sont sur la liste française, est-ce qu'on peut les consommer en Suisse? Une autre question qui s'est posée aussi, du moment où la liste allemande a commencé à réapparaître sous un format un peu plus... est-ce que les produits qui sont sur cette liste, eux, on peut les reprendre dans la liste suisse. Et puis, par conséquent, pourquoi s'arrêter ici? Il y avait des produits qu'on retrouve en Suisse et en France qui ne sont pas sur la liste française, qui ne sont pas sur la liste suisse, mais qu'on retrouve sur la liste hollandaise. Alors, il fallait se poser la question, est-ce que ces produits-là, on peut les reprendre dans la liste suisse? Et puis, bien sûr, il ne fallait pas s'arrêter là-bas, parce qu'il y avait des produits aussi qu'on connaissait parfois de la liste italienne ou de la liste anglaise. Bref, on n'en finit pas. Et du coup, je devais me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la première question, la première fois que je me suis vraiment posé cette question, c'était tout à fait au début, c'est qu'il y a une poudre, il y a une firme qui produit des épices, et qui produit aussi certaines épices en forme de poudre. Les épices en feuilles, en général, il n'y a pas de problème, mais en poudre, ça peut poser des problèmes, parce qu'on ajoute des produits pour que ça ne colle pas, pour que ça reste la poudre. Anti-caking agent, on dit en arabe. Vous dites comment?
Anti-agglomérant.
Voilà, anti-agglomérant. Merci pour la traduction en yiddish. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que il y avait un produit qu'on retrouvait sur la liste suisse. On disait, ah, ce genre de produit seulement de cette entreprise. Et puis, dans la liste allemande, il y avait écrit tous les produits de cette entreprise-là, sauf ce produit-là. Ah, je dis, mais ça colle pas. C'est anti-agglomérant, voilà. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à rechercher. Et alors, j'ai découvert plusieurs choses. Ce que j'ai découvert d'abord, c'est qu'il y a des standards différents. Ce sont pas toutes les listes sont les mêmes standards. Et puis, on pouvait se poser la question, pourquoi? Et après, du moment où il y a différents standards, il faut se poser la question, quels sont les standards qu'on veut maintenir? Pourquoi se fier à un standard et pas à un autre? Et puis aussi, un beau jour, ici à Strasbourg, j'étais chez ma tante, ceux qui connaissent Marthe Bensoussan, voilà, j'étais chez elle, et il y a quelqu'un qui râlait un peu, qui racontait qu'il avait râlé, disant, voilà, on retrouve des produits de grandes marques en cachère, menu d'un Herscher particulier, et on ne voit pas pourquoi est-ce que ce même produit qu'on retrouve, il s'agissait des biscuits BN, pourquoi est-ce que ce produit en cachère coûte le double de ce qu'il coûte en grande surface, juste pour ajouter un petit autocollant. Et puis un beau jour, au lieu de râler, la personne a décidé de comparer les ingrédients, et ce qui est remarquable, c'est qu'on prend la boîte de biscuits BN, je ne sais pas si encore aujourd'hui c'est le cas, mais à ce moment-là on prenait la boîte de biscuits BN en grande surface, la boîte production cachère, qui sont pratiquement identiques, et on commence à lire les ingrédients, et hop, il y a des petites différences. Là, il y a de la glycérine, là, il n'y en a pas, ou certains autres produits, les émulgateurs sont différents. Bref, on découvre que les produits qui sont pratiquement identiques ne sont, en fin de compte, pas vraiment identiques. De la même façon, il y a des produits qu'on retrouve dans un marché qui, dans un autre marché, risquent d'être différents. Par exemple, sur la liste française, on retrouve les cracottes Vasa, aussi en Allemagne. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut utiliser ces cracottes-là en Suisse? Et alors, après un peu de recherche, j'ai découvert que ces cracottes-là ont en fait une certification. Il y a une supervision de Kashrout qui est faite par le OOK, une organisation américaine. Et j'ai pu contacter le Mashgiach qui se trouve sur place, où cette fabrique se situe. Et je dis, voilà, moi j'aimerais bien savoir, quelle est la situation, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient, qu'est-ce qu'il y a comme problème, etc. Ouais, il contrôle et il m'envoie un mail. Alors, en Allemagne et en France, pas de problème parce que la ligne produit uniquement ces cracottes-là. Par contre, la Suisse, elle est sur la même ligne qui va vers la Turquie et produit des produits supplémentaires qui ne sont pas cachères, donc toute la ligne devient non cachère. Et donc, on peut les acheter en France, on ne peut pas les acheter en Suisse. Attention, c'est de l'information qui a déjà 4-5 ans, donc je ne prends aucune responsabilité pour ce genre d'information. Consultez toujours la liste la plus récente. Mais en tout cas, pour vous dire que le produit identique peut, du coup, cesser d'être cachère. Et dans ce sens, je dois aussi mentionner, avant que je passe vers la production de la liste, que ce n'est pas seulement les listes qui sont différentes, c'est aussi les réalités qu'on vit. Parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a certaines listes qui maintiennent des standards différents parce que dans un autre pays, les besoins des gens sont différents. Par exemple, ici à Strasbourg, vous avez une grande chance. Moi, je connais Strasbourg depuis que je suis tout petit. Dans les derniers 30 ans, 30-35 ans, j'ai vu Strasbourg évoluer beaucoup. Je me rappelle encore pour l'alimentation cachère, il fallait aller chez Balouka. Je ne savais même pas où c'était, mais j'entendais que c'était légendaire. Il fallait aller chez Balouka, c'était la distance. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes très bien achalandé. La comparaison avec ma ville natale, Anvers, ça passe très bien. Quand je me retrouve à Bâle ou à Munich, où il y a aussi des commerces cachers, la comparaison n'est pas sur le même plan, hein, c'est pas le même standard. Et donc, automatiquement, à Strasbourg, vous avez certaines possibilités que quand on se retrouve à Munich, voire même, quand c'est encore plus grave, on se retrouve à Karlsruhe, à Freiburg ou encore d'autres villes en Allemagne où il n'y a même pas de commerce cachère, du coup, on se dit, mais de quoi est-ce que je vais survivre? Comment est-ce que je vais manger? Et donc, il y a des raisons légitimes pour lesquelles une liste dans des pays où on a moins de commerce cachère vont permettre certains produits qui, dans d'autres pays où on a le luxe d'avoir un marché cachère quand même vif, bien développé, on n'a pas nécessairement besoin de se fier à ces standards-là. Donc, juste, moi, je me retrouve en Suisse, je me pose cette question-là, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé à plusieurs rabbins que je connais qui sont en charge de liste cacheroute. Bien sûr, personne n'a répondu au questionnaire. Puis, je les ai appelés au téléphone. Ils avaient un peu peur de me donner des réponses, mais longtemps, comme on se connaît, j'ai appris à les connaître. Il y en a que je connaissais, d'autres, j'ai appris à les connaître. Et au fur et à mesure où on s'est compris davantage, j'ai reçu de l'information et j'ai vraiment découvert qu'il y a des vraies différences entre les standards de différentes listes. Et j'aimerais bien vous montrer un peu de quoi il s'agit. Il y a des questions d'Alaha. Alors, la première chose qui nous frappe quand on ouvre n'importe quelle liste de cacheroute, c'est qu'il y a les produits parvés et les produits lait. Et les produits laits sont donc, en France on aime bien dire, sont avec le lait dit autorisé. Alors la première question qu'on rencontre, et ça c'est la même chose pour toutes les listes de cacheroute pratiquement, c'est quel est son point de vue par rapport au lait qui est pas chameau, donc pas sous supervision juive, mais qui est sous supervision gouvernementale, où le principe de ce dit mirtes, c'est-à-dire où les gens qui produisent ont des raisons financières pour ne pas appliquer les animaux. Bref, pour ne pas tricher, oui, parce qu'ils peuvent recevoir de grandes amendes. Donc, est-ce que dans un tel cas, l'interdit de nos sages pour consommer le lait qui n'est pas sous supervision s'applique encore ou pas? Ça, c'est la première question, elle est très simple. Du moment où quelqu'un va utiliser des produits laitiers sur une liste de cacheroute, il va dire, voilà, je me fie à ces autorités-là. Ça commence avec le prix Hadash, voire jusqu'à... Il n'y a pas le genre Moshe Feinstein. Il y a une ligne assez droite entre ces deux-là. Moshe Feinstein cite beaucoup le prix Hadash pour justifier son soutien à la consommation de tel lait autorisé. Bon, ça, c'est une question assez simple. Mais les questions... ne se limite pas à ce seul produit-là qui est le lait. En réalité, ce que j'ai découvert, c'est que il n'y a pas seulement le lait, il y a des produits laitiers à base de fromage. Il y a aussi la question de la graisse végétale. Deux grandes questions dans la cacheroute. Alors, produits à base de fromage. Quand on produit du fromage, il y a un reste, le petit lait. Il y a des gens qui aiment bien le consommer, le babeurre et d'autres produits comme ça, voilà. Mais sinon, c'est un reste. Et au début, l'industrie avait commencé à utiliser ça comme on le sèche, on fait une poudre, l'utiliser comme substitut pour le lait. Il n'était pas très bon. Il y a un certain nombre d'années, on a réussi à perfectionner le processus pour améliorer ce petit lait. Et depuis, ça nous produit un produit qui ressemble beaucoup plus au lait. Alors, comprenez bien, comment est-ce qu'on produit le petit lait? On peut le faire à base d'un fromage qui est peut-être inoffensif du point de vue de la cacheroute. Du moment où on accepte la consommation du lait dit autorisé, alors les fromages frais, en général, ne vont pas poser un problème. Mais le petit lait, on le produit aussi, c'est aussi le reste de la production, produit secondaire, la production de fromages comme les mentales, les dames, le mozzarella, n'importe quel fromage. Le processus pour créer un fromage, il s'agit en fait de prendre les éléments solides du lait pour en faire une masse, le fromage. On sépare cette masse du liquide qui est le petit lait grâce à la présure des acides ou de la présure artificielle. Et ce qui reste, ça va donc constituer ce produit secondaire qui est le petit lait. Mais si, quand je produis un cottage qui, selon la halakha, pour beaucoup de poskim, n'est pas considéré fromage, donc il est automatiquement aussi kasher que le lait, ou peut-être même plus kasher que le lait, ça c'est un cas qui est bon. Il n'est pas dit que mon petit lait va venir seulement de ce fromage-là. Le petit lait peut venir aussi de la production de fromages qui ne sont pas kasher. Il y a une différence d'opinion qui retourne vers Maïmonide et Rabbeinu Tam. Est-ce que le fromage que nos sages ont interdit comme étant du fromage non kasher, c'est seulement s'il a été créé grâce à la présure naturelle, qui elle vient d'un animal qui n'a pas été abattu de façon kasher? Le problème de la viande selon les quantités de présure, il y a aussi le problème du fait qu'on va utiliser de la nevela, un animal donc qui n'a pas eu la shrita, pour créer ce fromage. Tout le monde est d'accord que ce fromage-là, il est interdit selon la halakha. La question est quoi faire si on utilise d'autres, des substituts de présure, une présure artificielle. Et la grande majorité du monde halakhique est d'opinion, comme Maïmonide, contre Rabbeinu Tam, que tous les fromages durs, qu'ils soient faits avec de la présure naturelle ou qu'ils soient faits avec une présure microbiologique, donc synthétisée, qu'il s'agit d'un fromage interdit sous la règle de Gvinat Akum.
Zéro.
Et donc, c'est un interdit particulier. Et donc, on a une situation où un petit lait est produit comme produit secondaire de la production d'un produit non kasher. Alors, il y a des rabbins qui le permettent, il y en a qui ne le permettent pas. Moi, quand je donne ce cours, aujourd'hui, je vous fais en abrégé, mais je pose la question aux gens, je leur explique. Comprenez, il ne s'agit pas seulement du petit lait comme produit secondaire, mais souvent, le fromage lui-même, dans le petit lait, du moment où les solides ont commencé à se séparer du liquide, on amasse ça, il est encore dans son petit lait, on va cuire le fromage, on va le chauffer. Un emmental, ça se chauffe jusqu'à une température de plus ou moins 55 degrés. Un edam, j'ai jamais fait la shkara sur un edam, donc c'est juste ce que je lis, ce que j'entends. Mais à ce qui paraît, on le chauffe encore davantage avant de le sortir de son petit lait. Alors on a un produit non kasher qui se trouve dans cette soupe de petit lait, qui est un produit secondaire de la production de ce produit non kasher. Mais on va cuire ce produit non kasher dans cette soupe-là. Alors, est-ce que vous trouvez ça convaincant? Je vous dis, les deux opinions sont là, sont représentées dans la halakha. Je vous demande seulement, est-ce que vous trouvez ça convaincant que ce petit lait-là, dans lequel on a cuisiné un fromage non kasher, que ce petit lait-là, lui, reste kasher? Je vous demande honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, d'autre part, il faut aussi mentionner, du moment où on a développé le petit lait de telle façon qu'il puisse être vraiment un bon substitut pour le lait, on retrouve ce petit lait dans beaucoup, 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 beaucoup de produits. Moi, je vous rappelle, quand j'étais enfant, sur la liste française, on retrouvait des produits de la firme Master Foods, Mars, Twix, etc. Et puis, pendant certaines périodes, on ne le retrouvait plus sur les listes. Je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui. Je sais que je me suis posé la question, quoi faire avec Master Foods? Aux États-Unis, Master Foods est sous la supervision du OU. J'ai téléphoné au OU, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me suis informé, qu'est-ce qui se passe en Europe? Et ce que j'ai appris, c'est que Master Foods est une grosse boîte qui est très difficile à travailler avec. Aux États-Unis, il y a un contrat très strict et j'utilise le petit lait sous la supervision du OU. En Europe, c'est pas la supervision du OU. Il y a une supervision rabbinique qui, elle, se fie au fait au point de vue que le petit lait, même produit secondaire d'un fromage non cachère hein, qui a été cuisiné dedans, soit encore toujours acceptable. Et alors voilà, moi je me suis dit, bon, ça c'était. Et ça c'est la raison pour laquelle on a enlevé Master Foods de la liste française et pour laquelle moi je ne l'ai pas permis dans la liste suisse. Depuis, j'ai appris, j'ai reçu un rapport que je n'ai pas recherché davantage. London Based Inn, pendant de longues années, j'étais en contact avec eux, ont eu des pourparlers avec Master Foods. Le contrat était chez le rabbin Ralban, le grand rabbin d'Amsterdam, qui lui accepte par principe le petit lait, n'importe quelle son origine. Et London Based était en pourparlers avec Master Foods, parce qu'eux, ils n'acceptent pas ça pour leur Herscher, ils l'acceptent pour la liste, mais pas pour leur Herscher. Et donc, pour parler, et à ce qui paraît, depuis, la formule aurait changé. Moi, je ne prends pas de responsabilité, je n'ai pas encore vu les faits premiers, c'est de bouche à oreille. Mais pour vous dire, des choses comme ça changent. Nutella, c'était dans l'autre sens. Au début, il n'y avait pas de petit lait. Aujourd'hui, il y a le petit lait, poudre de petit lait dans le Nutella. C'est pour ça que le Nutella, on ne le retrouve plus sur la liste française. On le retrouve en Allemagne. On le retrouve en Hollande. Parce que ce sont des marchés cachers beaucoup plus petits, où il est beaucoup plus dur de retrouver suffisamment de produits cachers. Comprenez que du moment où la poudre de petit lait a été améliorée à tel point que c'est un bon substitut pour le lait, c'est un substitut bon marché. Les sociétés aiment utiliser des produits bon marché et vendre leurs produits au même prix qu'avant. Hein? C'est plus de bénéfices. Donc, automatiquement, il faut se poser la question. Alors moi, depuis 2 mois, j'ai été élu au conseil rabbinique, j'étais élu au conseil administratif du conseil rabbinique allemand. Ensemble avec le rabbin de Düsseldorf, on a reçu le dossier liste de kashrout. Donc on va devoir, c'est à nous de produire la prochaine liste de kashrout. Je viens de recevoir le dossier, malheureusement je ne peux pas encore vous répondre à des questions spécifiques. Mais cette semaine, j'ai rendez-vous avec celui qui a fait la liste de kashrout la dernière fois pour recevoir le dossier, ce mercredi. J'ai essayé de le faire avant notre rencontre aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer ce rabbin-là avant aujourd'hui. C'est seulement mercredi qu'on peut se rencontrer. Mais alors, vous avez première question. Oui.
Je propose donc un kosher day la semaine prochaine, alors.
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais il faut aussi dire, produire une liste de kashrout, ça prend du temps. Je vous dis même d'avance. La prochaine liste de kashrout, on va essayer de la reproduire bientôt, parce que la dernière, elle a déjà 2 ans, et on ne va pas changer les standards. On va appliquer les mêmes standards comme on les appliquait jusqu'à maintenant. Pour la simple raison qu'il y a une question de temps, on ne peut pas réorganiser la liste entièrement en un mois, et le marché allemand a besoin de ces coulottes-là. Il y a beaucoup de communautés où il est vraiment difficile de trouver des produits kashers. Comprenez aussi que pas tous les produits qu'on trouve dans la liste, on les retrouve dans le pays entier. Il y a 16 États fédéraux fédérés en Allemagne, oui, 16 landes, et il y a des produits qu'on retrouve à Berlin ou en Bavière ou en Nordrhein-Westfalen ou quoi d'autre, et on ne les retrouve pas dans d'autres, par exemple à Baden-Württemberg qui est ici à côté de la porte. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de produits afin qu'en Allemagne, partout en Allemagne, les gens puissent retrouver des produits. Ce qu'on a envie de faire, nous, j'ai fait un propos de réorganisation, c'est que on va commencer à indiquer dans la liste de kashrout, on va avoir 3 standards. Un standard, on peut dire, Méhadrin, un standard comparable au OU aux États-Unis, c'est-à-dire que la seule coula qu'on va accepter, c'est qu'on va permettre le lait d'y autoriser, mais pas le petit lait douteux, pas d'autres produits douteux qu'on va discuter. Et puis, le standard actuel de la liste, pour qu'il reste, il soit encore toujours présent pour les gens qui en ont besoin.
Avec le petit lait, ou pas ?
On va continuer à l'avoir, parce qu'il y a des endroits en Allemagne où sinon, ils n'auront pas quoi manger. Qu'est-ce que je veux dire aux gens de jeûner qui poursuivent 1 jour par an ? Voilà. Le petit lait, c'est un exemple. Il y a d'autres produits qui viennent du même procédé. Par exemple, si vous prenez les Kinder Bueno, vous retournez, vous commencez à lire, vous allez voir qu'il y a un ingrédient, butter oil, ou rein butterfett en Allemagne, en allemand. Le butter oil, la graisse pure beurre ou quelque chose comme ça, c'est pas du beurre. Il s'agit, quand on reprend le petit lait, on va séparer la graisse les éléments gras de ce produit-là, de la poudre de petit lait maigre. Et de cette graisse-là, on va faire un produit qui ressemble, qui remplace le beurre. Alors, particulièrement à propos du Kinder Bueno, j'étais en contact il y a quelques années, à nouveau, il s'agit d'informations ici, qui a 3-4 ans, j'étais en contact avec le Bédine de Paris, pour rechercher d'où vient ce butter oil. Parce que il y a une fabrique de Kinder Bueno, il y a une fabrique de Ferrero qui est, je crois, au nord-ouest de la France, en Bretagne, je crois. Il y a une autre fabrique en Allemagne, il y a plusieurs fabriques, et chaque fabrique reçoit ses produits d'une autre source. Et voilà, on a recherché, il s'est avéré que la fabrique qui livre en France prenait son butter oil d'une fabrique en Belgique qui, elle, était sous supervision rabbinique. Problème résolu. Est-ce que les Kinder en Allemagne ont le même statut? Pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Je n'ai pas pu obtenir cette information. Mais à ce moment-là, on a voulu rechercher ça pour la France, pour vous dire, là-bas, on a pu au moins répondre à cette question-là. Ça, c'est, donc, on a le petit lait, le butter oil. Vous avez aussi, en général, les protéines de lait. Tout ce qui est protéines de lait, il faut se poser la question d'où ça vient. Et à propos, tous ces produits-là, ils peuvent être cachers. Hein, c'est pas nécessairement le cas qui n'est pas cachère, ou il peut être lait autorisé. Il faut simplement que l'administrateur de la liste de cacheroute se pose la question, est-ce que je veux être strict? Est-ce que je ne demande pas d'être strict? Si on va être strict, alors il faut rechercher. Vous connaissez les PIMS? Les PIMS ont de la glycérine. La glycérine est un produit qui peut venir à base de source animale ou de source végétale. Il va falloir rechercher ça. Bon, à ce qui paraît, le Bédine de Paris a contrôlé ça. Les PIMS qu'on vend en France ont 4 sources de glycérine. J'ai toute la liste des producteurs quelque part. Et tous les 4 sont sous supervision rabbinique, problème résolu. Mais pour vous dire, c'est pas toujours le cas. La graisse végétale n'est pas de l'huile. L'huile, c'est un produit liquide, c'est un processus particulier. L'huile, en général, pose peu de problèmes. La graisse, par contre, c'est un produit qu'il faut chauffer, ou bien on crée la graisse à base d'huile, ou bien il s'agit de, par exemple, l'huile de palme, qui est une graisse, qui est d'ailleurs très mauvaise pour la santé, mais qu'on retrouve dans beaucoup de margarines. Comme il s'agit d'un produit graisse, on va le produire sur une ligne de production pour de la graisse. Or, la graisse, elle n'est pas uniquement végétale, elle est aussi animale. Donc, selon la source de cette graisse, il peut y avoir un problème, oui. Alors, une question administrative de cacheroute, est-ce que chaque fois quand je vois l'ingrédient graisse végétale, je vais me poser la question d'où est-ce qu'elle vient, ou je vais dire les standards européens sont suffisants pour moi, j'accepte. En réalité, les standards européens évoluent, et la façon dont ces standards-là sont implémentés évolue aussi, ce qui veut dire que les standards s'améliorent. D'ici quelques années, je crois qu'on pourra se fier à l'ingrédient graisse végétale pour dire c'est vraiment végétal. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors c'est une question entre rabbins. Moi je sais que le rabbin qui a fait la liste allemande, lui, il est d'opinion qu'on peut déjà se fier à la graisse végétale. D'autres rabbins disent non. Selon nos recherches, on ne peut pas encore se fier. Et pour vous compliquer l'affaire, parce que moi j'ai dû contrôler ça dernièrement pour un produit dans une des fabriques sous notre supervision, j'ai découvert par exemple que ça dépend d'où vient quelle région vient cette graisse végétale. Par exemple, deux zones où on produit beaucoup beaucoup de graisse végétale, c'est l'Amérique du Sud et la Malaisie-Indonésie. Et à ce qui s'avère, en Amérique du Sud, on produit aussi beaucoup, beaucoup de viande. Et donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de graisse animale. Et donc, la graisse végétale qui vient d'Amérique du Sud, parce que les palmiers, ça ne pousse pas en France, hein, ou pas trop, c'est pas ici qu'on va produire l'huile de palme. Donc, si ça vient d'Amérique du Sud, on a besoin absolument de supervision rabbinique. Si ça vient d'Indonésie-Malaisie, souvent, on pourra dire, on peut se fier au fait que là-bas, il n'y a pas de grande production de graisse animale. Et on peut dire, voilà, pour une liste de kashrout, ça suffit. Pour un hercher, on voudrait un peu plus de sécurité. Mais on peut dire, c'est valable de s'y fier. Mais quand vous voyez le paquet en supermarché, vous ne pouvez pas commencer à dire, mais d'où est-ce qu'elle vient cette graisse? Donc, quand vous voyez des différences entre les listes de kashrout, déjà, il y a la question quoi faire dans le cas de doute. Et, en général, vous avez... Quand vous retrouvez le paquet, vous vous dites, mais écrit juste graisse végétale, ben, la réponse est, pas toutes les graisses végétales sont égales, sont créées de façon égale. Donc, ce que j'ai découvert dans toutes mes recherches, c'est qu'il y avait plusieurs standards, justement parce que les marchés sont différents, et qu'il y avait ces questions-là. Les grandes questions, je vous ai mentionnées, il y a d'autres questions un peu plus petites. Par exemple, il y a une tchouva de Rabbi Moshe Feinstein qui permet l'utilisation d'un produit à base d'un certain miela. Vous savez ce que c'est le miela? C'est une sécrétion douce de certains insectes. Mais ce n'est pas du miel, hein, c'est quelque chose d'autre. Et le shellac est un produit à base d'un miela, d'un insecte qui ressemble beaucoup à la cochenille, c'est la même famille. Et ce miela-là, on l'utilise pour produire un vernis pour faire briller les chocolats, ou les pommes, ou les citrons et les oranges. Et donc, la question se pose, est-ce que Rabbi Moshe Feinstein était d'opinion que ça n'avait aucun goût, ça ne se remarquait à peine, ça a été travaillé tellement avec des produits chimiques que ça n'avait plus de statut de nourriture? Mais on peut vraiment se poser la question, il s'agit ici d'un produit issu d'insectes. Est-ce qu'on va l'accepter ou pas? Il y a aussi une coula strasbourgeoise de Rav Horowitz à propos du cochenille. Est-ce qu'on peut produire du cochenille cachère? Rav Horowitz était d'opinion que c'est possible. C'est pas pour ça que tous les cochenilles sont cachères, pas du tout. Il faut qu'ils passent par un processus particulier qui prend plus d'une année pour la production.
Séchage.
Un produit de séchage. Et donc, mais pour vous dire, il s'agit de ce genre de produit. Est-ce qu'on permet des bonbons avec le shellac ou pas? C'est une question. Nous, en Suisse, on ne l'a pas permis. Ici, en France, on l'a permis. Bon, c'est à Strasbourg. Maintenant, un truc, comment dirais-je, le Bedin de Paris aussi, pour la liste. Ils le permettent aussi.
Pas Marseille.
Vous voyez. Alors, vous remarquez que les différences entre les listes de kashrout, c'est pas la politique.
C'est pas uniforme.
C'est pas comme ça par question de goût. C'est pas arbitraire. Il y a vraiment des questions halakhiques derrière ces différences-là, et c'est l'obligation de chaque rabbinat en fait de penser d'abord à leur communauté. Quand on crée la liste de kashrout allemande, moi je ne vais pas appliquer le même standard pour la liste allemande que j'appliquais en Suisse. Pourquoi ? En Suisse, j'ai un marché où ceux qui consomment le kasher, ils sont bien établis, et il y a, pas tellement, mais il y a beaucoup plus quand même qu'en Allemagne. Donc, en Suisse, les gens, aussi quand ils conduisent, on regarde les voitures qu'ils ont, sont des voitures quand même de qualité. Et bien, la kashrout, on veut aussi la kashrout de qualité. Hein, on n'aime pas conduire les Yugo et les Trabant et d'autres trucs qui n'existent plus. La même chose avec la kashrout, on veut un standard minimal, mais aussi après on se dit peut-être est-ce que j'ai envie de conduire une Fiat 500, ou peut-être qu'on a vu quelque chose qui est un peu plus spacieux, qui me garantit en cas d'accident une certaine marge supplémentaire, etc. Donc on a la même chose avec les listes de kashrout. Et c'est pour ça, moi, Je vous mets les cartes sur la table. Vous connaissez maintenant les grandes questions, il y a aussi beaucoup de petites questions qu'on n'a pas encore mentionnées. Et moi, je crois, je vous recommande, en fait. La Mishnah en Pirkei Avot nous dit « Asel Harav ». Pas chacun. Moi, j'ai eu des cas, des gens en Suisse qui me posaient des questions. Est-ce qu'on peut utiliser tel ou tel produit de la liste allemande? Je savais qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter les produits toujours en Suisse qui sont beaucoup plus chers. Le fait que ça coûte beaucoup d'argent et que quelqu'un ne puisse pas se permettre, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération quand on répond à une question. La tâche du moré aura, du rabbin, du rav, c'est non seul, pas seulement de répondre comme une encyclopédie, mais plutôt de prendre tous les facteurs qui ne sont pas nécessairement mentionnés explicitement, de les prendre en considération afin de donner un psak qui est adapté à la personne qui pose la question. Alors, moi, mon conseil, chacun de toute façon, et je dis ça, et je dis la même chose aussi à des gens, des collègues, je leur dis, ne posez pas de questions par fax, ne posez pas de questions par email, chacun a besoin de son maître. Vous avez votre rav, chacun chez lui, dans sa synagogue, ou c'est le grand rabbin de la ville, quoi qu'il en soit, son rav, son enseignant. Qu'est-ce qui est un standard auquel moi, je peux me fier? Soyez aussi honnête. Il y a des gens qui vont dire, pour moi, je me retrouve souvent dans des situations où si je ne vais pas me permettre ces produits à base de petits laits, ces koulala, je vais jeûner chaque lundi et jeudi, je ne sais pas quoi, toujours au boulot, je travaille en Allemagne, je ne sais pas quoi manger. Ou quelqu'un d'autre qui a ces possibilités de ne pas nécessairement se permettre de manger, de consommer tous ces koulala, posez-vous la question, honnêtement, est-ce que vous êtes convaincu d'une koula ou d'une autre? C'est honnêteté envers soi-même. Oui. La même question pourrait poser à propos du fromage. Oui. Parce qu'en Suisse, par exemple, à Bâle, on avait un fromage sur la liste. Et j'écris, il y avait une note à côté pour ceux qui ont cette tradition. Mais pas tout le monde l'accepte. Parce que d'un côté, non, c'est pas une blague. Je devais tenir compte du fait que si je ne mets pas de fromage sur la liste, il y a des gens qui vont acheter des fromages durs, sans poser de questions, en grande surface. Je dois penser à eux aussi. Donc on a mis un fromage, on dit voilà, c'est... J'aurais expliqué d'une façon accessible, mais en fait, ça veut dire c'est basé sur le point de vue de Rabbeinu Tam. Ceux qui ont la coutume de se fier à cette coula de Rabbeinu Tam, vous avez ce fromage-là. Tous les autres, posez-vous la question, oui. Peut-être que ce n'est pas pour vous. À nouveau, il faut que ça soit adapté. Il faut que ça soit adapté aux besoins des gens. Pas arbitraire, pas je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, je trouve ça très bon, j'ai envie de l'acheter. Mais plutôt, Asher Moucham, chacun en sa situation, il s'agit d'un côté d'une situation religieuse, où est-ce que je me situe, mais d'autre côté aussi, quels sont mes besoins particuliers à cause de la situation où je me retrouve, question financière, question où est-ce que je voyage, avec quelle régularité, etc. Donc, en fin de compte, le meilleur conseil que je vous donne, informez-vous, apprenez les différences entre les listes. Je vous ai mentionné certains ingrédients que vous pourrez... Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre un produit d'une liste et voir immédiatement est-ce que ce produit-là est susceptible d'utiliser certaines coulottes ou est-ce que c'est un produit qui a beaucoup moins de problèmes. Alors, du moment où vous allez voir graisse végétale, vous savez qu'il faut se poser la question d'où vient, quels sont les standards de cette liste. Vous voyez des produits petits lait, butter oil, protéines de lait, etc. Il faut se poser la question. Vous allez voir des produits comme... Bon, il y en a encore plein d'autres, je peux pas faire toute la liste maintenant. Mais si on apprend, on s'informe, allez discuter ça avec votre rav. Et vous allez pouvoir, de telle façon, choisir quelle est la source de produit qui est le mieux adapté pour vous. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Maintenant, j'aimerais bien vous donner la possibilité de poser des questions. Mais j'espère quand même aussi avoir amené une certaine clarté. Pourquoi est-ce qu'il y a justement ces différents standards?
Ah. Oui, c'est
une personne qui va poser des questions. On va donc pas vous demander de les écrire parce que ça ferait trop de temps. Veuillez bien prendre le micro pour que tout le monde puisse entendre. Attention, si vous vous présentez quand même.
Oui, Madame Néter de Colmar, je voudrais savoir s'il y a un problème pour le lait de soja. Il fut un temps où on pouvait trouver le lait de soja dans les supermarchés et la marque Björg a été supprimée. Maintenant, il
n'y
a que la marque Alpro
qu'il
faut venir chercher ici, à Strasbourg.
Alors, la marque Alpro, comme vous êtes à Colmar, vous n'êtes pas loin de la frontière allemande. La marque Alpro est sous la supervision de la communauté Chomré Hadat d'Anvers. Et vous pouvez l'acheter du moment où vous traversez la frontière, vous en trouvez en quantité. Donc là, la marque Alpro...
En Allemagne,
ça c'est en Allemagne. En France, je ne sais pas exactement où vous le trouvez, mais il n'y a pas du tout. Bon, alors, c'est plus facile de Colmar de traverser le Rhin que de venir jusqu'ici.
La Fribourg.
Prochaine question. Oui, vous voulez prendre le micro, s'il vous plaît?
Après, chez vous, parce qu'on n'entend pas bien. Non, on n'entend pas bien. C'est... ici de la boutique Emmaüs.
C'est dangereux de nous donner le micro.
Nous verrons.
Ouais, je voulais juste savoir si, comment vous procédez pour établir cette liste. Est-ce que vous allez voir les usines? Comment vous choisissez les différents produits, etc. Deuxième petite question. Est-ce qu'il y a sur les compositions des pourcentages, des éléments, des ingrédients que les fabricants sont autorisés à ne pas mentionner? S'ils sont très faibles, est-ce que ça
c'est
ce qu'on dit, hein, mais on ne se dit pas tout, peut-être que...
Est-ce que c'est pas faible?
Maintenant, Strasbourg est toujours très exemplaire pour être, en tout cas, comme référence vis-à-vis de la France, etc. J'aurais bien voulu qu'elle s'inspire beaucoup de cette liste allemande, qui est très bien faite, et je ne parle pas de Paris, mais que font et à quoi sert l'argent de la commission Cacheroute à Strasbourg?
Alors, la dernière question, je ne réponds pas.
Non, moi, je réponds tout de suite. C'est pas une question de finance à faire ou pas faire une liste, c'est une question idéologique. Est-ce que dans une communauté qui est tellement structurée, où les Cacheroute quand même très présente, est-ce que c'est un idéal de Cascula, a priori, d'encourager les fidèles à avoir une liste ou d'autres questions, mais elle ne se résume pas de façon aussi caricaturale.
Alors, la première question, c'est comment est-ce qu'on établit une liste? Moi, quand j'ai créé la liste de Bâle, j'ai pas visité beaucoup de fabriques. J'ai fait un travail administratif. C'est un choix. Moi, je voyais mon travail surtout avec les gens. On n'avait pas d'effectifs pour que je commence à visiter des dizaines de fabriques. Dans de rares situations, j'ai ou bien visité moi-même ou envoyé quelqu'un pour visiter une fabrique. Mais normalement, ce que j'ai fait, c'est utiliser le travail fait par les autres, et j'ai parlé avec les rabbins. Mais alors là, c'est très intéressant. Je voulais retrouver la personne qui avait visité la fabrique. Parce qu'il y a des mythes. Il y a des mythes qui circulent pendant des années, avec une liste de cacheroutes qui va se fier sur une autre liste de cacheroutes, qui, elle, va se fier sur la troisième liste de cacheroutes, qui, elle, se fie sur la première. Ça va en cercle, en rond. Un bon exemple où... je me suis toujours posé la question qui a visité cette fabrique, c'est pour les fromages Philadelphia. Les fromages Philadelphia aux États-Unis sont sous la supervision de, encore une fois, de cette organisation nommée OK, OK. Mais eux, ils supervisent uniquement la production américaine. Et j'ai cherché à savoir qui a visité cette fabrique. Et j'ai cherché. Et je n'ai pas vraiment trouvé. Pendant des longues années, je n'ai pas trouvé. Donc, je n'ai pas pris ce produit-là dans les listes de cacheroute. Récemment, j'ai rencontré un rabbin qui a contribué à la liste allemande, qui lui-même m'a dit qu'il était dans cette fabrique-là. Et donc, sur base de cette information, pour l'Allemagne, je ne me suis pas opposé. Mais non, ce qui va se passer du moment où je reçois le dossier cette semaine, c'est que moi-même, j'ai personnellement révisé toute cette information-là. Hein, donc, je n'ai pas le droit de me fier à des rumeurs si je vais créer quelque chose. Je peux vous informer. Mais sinon, vraiment, il s'agit d'un travail administratif important. Il y a beaucoup de produits sur le marché général qui sont sous supervision, et on ne le sait pas. Parce que ce sont des produits qui sont qu'on produit aussi pour Israël. Oui. Et donc, souvent, quand je visite en Israël, je viens avec mon téléphone, je vois un produit, je dis « Ah tiens !» C'était caché, ça je savais pas. Je prends une photo et j'appelle le rabbin, je contacte le rabbin qui donne l'ashgacha, et parfois il me dit il s'agit d'une production spéciale, parfois il me dit il s'agit d'une production, tout est caché. Mais on met le symbole seulement pour ce qui arrive en Israël. Un petit exemple qui n'a pas à faire avec Israël, mais aussi qui est sur la liste de cacheroute française, qui est en fait sous supervision rabbinique, c'est le boursin. Le boursin est sous supervision du OIO aux États-Unis, avec le lait dit autorisé, mais donc avec les standards du OIO qui sont assez hauts. En Europe, le boursin est vendu sans aucun symbole de cacheroute. Donc moi, à chaque fois quand je produisais une nouvelle liste suisse, je contactais mes amis au OIO, envoyez-moi le Hersher, je voyais tout encore quelle ligne, quels produits sont en ordre, parce que le boursin a plusieurs genres de fromages qu'ils produisent, pour savoir qu'est-ce que je peux prendre dans la liste suisse. Donc, c'est un travail administratif de retrouver les rabbins qui sont responsables pour tel ou tel produit. Et comme j'ai dit, ce n'est pas toujours évident. Les listes de kashrout ne gagnent pas d'argent. C'est important. Quand on fait un hercher normal, on reçoit de l'argent, soit de la société qui est supervisée, soit du grossiste qui commande sa production kasher. Et donc il y a quelqu'un qui va payer, et le rabbinat qui produit cette information-là, qui donne la supervision, va être payé. Les listes de kashrout, c'est du volontariat en fait. C'est un service que les rabbinats offrent aux juifs de la région, et donc on a moins d'effectifs. On ne peut pas se permettre de visiter une telle fabrique 4 fois par an. Alors en Suisse par exemple, quelle était la politique ? On faisait une hashkacha en Suisse uniquement pour des sociétés qui sont très stables, où on a un lien, où on a beaucoup de produits pour qu'on puisse vraiment développer un lien profond avec cette société-là. Et on peut dire, voilà, maintenant pendant 2-3 ans, j'ai pas besoin de me faire des soucis. Si il va y avoir un changement, moi je reçois automatiquement de l'information de la société, je suis en contact avec eux, j'appelle chaque 6 mois ou chaque année pour voir est-ce que quelque chose a changé, et tout est en ordre. Il y a d'autres produits, surtout des produits meilleurs marchés, vous avez tout ça appris du scandale en Angleterre, pas dans le marché cachère, mais comme le scandale Tesco, avec les hamburgers qui avaient 29% de DNA de cheval. Voilà, donc, pour vous dire, il s'agissait d'un produit budget. La loi permet, dans des hamburgers 100% en bœuf, d'avoir presque 50% d'autres produits. À ce qui paraît, les législateurs ne font pas toujours des maths. Et donc, de la même façon, du moment où vous avez affaire avec un produit meilleur marché, les ingrédients risquent de changer plus souvent. Donc, il fallait bien choisir les sociétés avec lesquelles on était en train de parler pour reprendre des produits. En Allemagne, je ne connais pas encore la situation, je vous dis honnêtement, c'est cette semaine que ça va commencer. Mais, je sais par exemple que le London Based In, par principe, n'exige pas de visite pour leur liste de kashrout dans les usines, mais ils ont un questionnaire important pour avoir des informations détaillées, pour savoir qu'est-ce qu'il y a encore sur cette ligne de production pour s'assurer que le produit soit réellement kasher. Donc ça c'est un peu côté visite. Côté pourcentage, ça évolue. Ça évolue constamment. Il y a des années, on pouvait facilement avoir jusqu'à 2% de produits d'ingrédients non déclarés. C'est-à-dire un ingrédient qui constitue jusqu'à 2% du produit qui n'était pas déclaré, et 2% c'est beaucoup trop pour le point de vue de kashrout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus strict. Le problème, c'est qu'il y a des ingrédients où on ne sait pas directement est-ce que le produit est douteux ou pas. Il faut avoir une certaine expertise. Je vous ai raconté aujourd'hui du Botorel. Je suis persuadé que 90% des gens ici, avant d'avoir entendu mon histoire, on se disait Botorel, c'est du beurre. Surtout en allemand, Rein Butterfett, la graisse de beurre. Ça a l'air d'être du beurre raffiné. Les émulgateurs, souvent sont à base de soya, cachère, peuvent être à base d'acide de graisse alimentaire, à base de graisse animale. Donc, il faut savoir qu'un émulgateur, c'est automatiquement un drapeau rouge. Alors, déjà, il y a cette question, est-ce qu'on peut se fier aux ingrédients ou pas ? Parce qu'on ne connaît pas tous les ingrédients, on ne sait pas comment les interpréter. Et maintenant, encore une petite histoire à propos des boîtes de conserve en Suisse. En France, vous avez un grand marché. 60 millions d'habitants, pratiquement. Un grand... Vous dites ? 60 déjà ? Oh. Hein ? Moi, j'étais encore à 58. En tout cas, un beau marché, grand. Il y a des grandes sociétés qui produisent des conserves. En Suisse, c'est un petit marché. 7,5 millions de personnes. Alors, il y a deux sociétés qui dominent le marché des conserves. Deux. Qui font ça pour tout le tout. Chacun qui veut emballer quelque chose en conserve, on voit chez eux. Et donc, deux sociétés, pour un petit marché, ça veut dire une heure, on va faire les petits pois. La prochaine heure, on fait des haricots avec du porc. L'heure d'après, c'est le maïs. Une heure après, ça va être des pommes de terre sautées. Après, le bœuf carotte. Après, voilà. Et à cause de ça, même quand les ingrédients à 100% sont cachers, quand ils entrent, ils ressortent non cachers. Oui. Donc, selon le marché, ça c'est une question de connaissance professionnelle, selon le marché, vous pouvez avoir un produit qui ressemble, qui a l'air d'être 100% cachère, mais qui ne l'est pas. Donc, en fin de compte, en France, heureusement, la liste de cacheroutes va vous donner des indices à propos des conserves. Quelles sont les fabriques qui produisent des conserves? C'est un peu compliqué, il faut regarder le numéro, etc. Mais vous avez la possibilité de s'assurer que... qu'il s'agit de conserves qui sont produites quelque part ou tout en ordre. Donc, les pourcentages, ça évolue, ça devient de mieux en mieux. Il y a encore toujours un peu de fraude. En Europe occidentale, il y a moins de fraude qu'en Europe de l'Est ou en Sud de l'Europe. Donc, plus qu'on va vers l'Occident et vers le Nord, les gens sont plus honnêtes, c'est sympa. Mais c'est un marché unique quand même, donc on est jamais sûr à 100%. Ça évolue. D'ici quelques années, je crois que la situation va être beaucoup, beaucoup meilleure qu'aujourd'hui, mais elle n'est pas encore parfaite. Voilà, ça c'est pour les pourcentages. Et une petite chose à propos de la liste de cacheroute française, il y a quelqu'un qui s'est plaint ici, monsieur... Oui. Moi, j'estime beaucoup le travail que fait le Bedi de Paris pour la liste de cacheroute française, qui a un niveau, vraiment. La liste française n'a pas toujours eu ce niveau. Il a obtenu ce niveau, c'est vraiment merveilleux. Il y a une chose que je n'aime pas, c'est elle est très belle, mais elle n'est pas pratique à utiliser. Je ne sais pas ce que vous pensez. Nous, en Suisse, on s'est arrangé de noter dans quel magasin on peut acheter un produit ou un autre. En Allemagne, on vient de commencer de faire ça. Donc, j'espère que, au lieu de mettre la priorité sur la beauté graphique, on va mettre la priorité un jour sur... la facilité d'utilisation, mais du point de vue de qualité de liste, vous avez une bonne liste en France. Vous voulez venir prendre le micro?
Cinq minutes là.
Bonjour, ma question est sur la liste du Radloch.
Oui.
Je voulais savoir qu'est-ce qui fait la différence entre les ingrédients qui sont présents dans sa liste, qui a un rang de commune de confiance.
Oui.
Et ces ingrédients qui ne sont pas présentes dans la liste du Bedi de Paris.
D'accord, très bien. Alors, je connais le Ravolf personnellement, c'est une personne de référence pour moi, c'est quelqu'un vraiment... Moi, je viens vers lui quand j'ai des questions particulières en cacheroute industrielle, entre autres vers lui. Sa liste, par contre, ce n'est pas sa liste. Ce que je sache, c'est la liste hollandaise, n'est-ce pas? Qu'il produit lui. Et à nous... Ah, il y a la sa liste à lui. Alors... D'accord, d'accord. Alors, malheureusement, moi je connais la liste hollandaise, je ne connais pas la liste des EI. Alors, là, je vous demande pardon. Là, j'ignorais jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a une heure.
Je me permets.
Oui. D'accord. D'accord.
Le Ravolf a sorti cette liste l'année dernière en disant pour des, par exemple, des camps EI ou des gens qui se trouvent en vacances dans des endroits où il y a des difficultés à voilà. trouver des produits spécifiques, un peu comme vous expliquez pour voilà. l'Allemagne dans certaines villes, il a proposé une liste avec d'autres produits voilà. Qui ne sont pas
forcément. Il y avait un débat sur le lait, sur le petit lait.
Les EI, à la base, utilisent.
D'accord.
C'est le petit lait, je crois.
Moi, je ne connais pas cette liste même. Je sais que le Rav Wolf s'occupe de la cacheroute à Amsterdam. Vous voulez...
Oui, non, juste un des points majeurs différenciés, puisque c'est la question, la liste, cette liste ad hoc, puisque c'était effectivement à la demande des éclaireurs dans des cas de camps et lits un peu éloignés. Un des points majeurs qui est de divergence entre cette liste et celle du Bedi de Paris, c'est que, contrairement au passé, la liste du Bedi de Paris ne reconnaît plus le lait autorisé. Elle ne se fie pas au psagdim des grottes mochées. Alors que le Rav Wolf, lui, admettait dans cette liste-là le halavakoum, le lait non surveillé. Ça, c'est un des points majeurs.
Puis-je poser une seconde?
Pardon?
Il y a des produits au lait dans la liste française.
Oui, mais il y a l'avertissement quand même. C'est vrai. Il y a
c'est pas le petit lait.
Ils sont indiqués, mais a priori, beaucoup de produits à base de lait non autorisé ne figure plus. Il y a des produits qui n'existent plus.
Maintenant, je me demandais, est-ce que c'est le lait ou le petit lait?
Le deuxième point, c'est au niveau du petit lait. Non, je n'ai pas le terme technique, mais c'est... Il y a un terme technique pour ce qui est autorisé. Lactosérum, c'est
possible. D'accord. Alors, le lactosérum, c'est justement la question, c'est un des produits comme
qui est
Oui, c'est la même, toute cette même histoire, protéines de lait, lactosérum, butter oil, etc. La liste hollandaise accepte, elle est des standards semblables à l'Allemagne, la liste hollandaise accepte le petit lait, voilà. N'importe quelle sa source. La liste hollandaise accepte aussi la graisse végétale, n'importe quelle sa source, en disant c'est suffisamment fiable. En conversation avec le Rav Wolf lui-même m'a dit, je lui ai posé la question, quel est le statut de la graisse végétale en général. Lui, il est d'opinion personnellement que la législation européenne n'est pas encore suffisante, elle s'améliore, mais elle n'est pas encore suffisante pour assurer que la graisse végétale est vraiment végétale. Donc il s'agit de quelque chose qu'il a reçu en héritage, qui est justement pour des situations où on ne retrouve pas, parce qu'il y a vraiment le petit lait et la graisse végétale, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Trouver des produits aujourd'hui qui n'ont ni l'un ni l'autre, c'est dur. Donc, il a dû produire une liste semblable à la liste hollandaise, ce que j'entends, justement pour quand on se retrouve quelque part où on peut seulement avec difficulté retrouver des produits cachers. Alors, à nouveau, c'est légitime. Moi, je trouve ça tout à fait légitime. Il faut un psak selon la situation où on se retrouve. Vous dites? Est-ce que j'ai utilisé le mot tarif aujourd'hui une fois? Non, je ne dis pas tarif. Moi, je dis qu'il y a différents standards parce qu'il y a une question, est-ce que quelque chose est vraiment permis ou pas? Je vous ai expliqué pourquoi. Il y a des divergences d'opinion qui retournent vers des piscadines il y a 200 ans, 300 ans. Voire même parfois 800, 900.
Et il y a des différences de tradition, de la même manière qu'il y a des différences de tradition dans d'autres cas de cachoute, et je ne me sens pas que lorsque il y a une tradition locale ou de famille ou communautaire, on change sur le gré du vent. Je veux dire, ceux qui ne mangent pas de quignotes mangent pas de quignotes, et ceux qui en mangent, et c'est pas parce qu'on en mange ailleurs qu'on peut en manger ici. Je veux dire, il y a une certaine trame, une certaine fidélité, je crois, à tenir compte. Et si, effectivement, en Hollande, vous savez très bien qu'en Hollande, il y a une tradition qu'on puisse manger de la viande après le lait, après une heure. Alors, pourquoi ne pas nous inspirer de ça et dire, ben voilà, on va faire comme en Hollande. Alors, je ne veux pas comparer, ce n'est pas comparable, mais il y a là une sorte de dérive de vouloir aller là où ça nous a l'air un peu plus confortable. Il y a aussi, je ne sais pas, on a des traditions, et je crois qu'il faut aussi pouvoir les respecter.
Mais en plus, je dirais même plus que ça. Ici, la question est un peu plus grave, si vous permettez. Un tout petit peu plus aiguë, plus grave que la question de Kitniot. Kitniot, c'est un minag, il y en a qui ont ce minag, il y en a qui n'ont pas. Ici, oui, moi je me retrouve au milieu. J'ai une mère sfarade et un père ashkenaz, alors je suis sandwich. C'est bien, ça enrichit. En tout cas, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que dans la vie, la halakha, l'œuvre de Psak Halakha, c'est pas de rechercher à chaque coup, c'est pas rechercher le produit budget, se dire qu'est-ce qui est le meilleur marché, donc qu'est-ce qui est la plus grande, où je reçois le plus de permissions. La question est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a une qualité suffisante. Et la réponse n'est pas la même pour tout le monde, parce qu'il y a justement des divergences d'opinion. Et je vous dis encore une fois, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous convainc davantage du point de vue intellectuel? Et tenez compte que aussi selon la situation où on se retrouve, la réponse à une question peut être différente selon la situation. Pas toujours. Par exemple, si moi, un de mes maîtres était un talmide très proche, un disciple très proche de Rav Moshe Feinstein. Alors je lui ai posé une fois la question, quelle était vraiment l'opinion de Rabbi Moshe Feinstein à propos du lait autorisé? Pas tout le monde partage cette opinion, pas tout le monde partage l'opinion de Rabbi Moshe Feinstein, mais en tout cas, Rabbi Moshe Feinstein, lui-même, même que dans ses réponses, il écrit Baal Nefesh Yachmir, qu'il est bien d'être strict, même qu'il permet de les autoriser. En réalité, Rav Moshe Feinstein écrivait ça parce qu'il ne voulait pas obliger des gens à suivre sa décision permissive, mais il était convaincu que le lait sous supervision gouvernementale était complètement permis. D'ailleurs, lui-même, personnellement, il ne le consommait pas, à ce qui paraît par sympathie avec ceux qui ne le consomment pas, mais chez lui à la maison, ses enfants, sa femme, tout le monde l'utilisait. Et son fils, Rabbi David Feinstein, continue la même politique que son père, donc il a grandi avec le lait autorisé. Maintenant qu'il a repris la position de son père dans les yeshivas et aussi un des poskim américains, lui-même, il ne le consomme pas, chez lui à la maison, on l'a. Oui, donc ce sont des gens qui sont convaincus que c'est absolument permis. Par contre, il y a d'autres décisions, on dit, c'est permis à cause de la situation. Donc, il faut faire attention. En fin de compte, assez le harav, c'est un bon conseil. C'est pour apprendre soi-même à estimer. Une certaine honnêteté intellectuelle est importante. Et peut-être que vous êtes convaincu, vous dites, moi je suis convaincu qu'en effet, c'est permis. Mon rav me dit, c'est en ordre. Alors, c'est légitime. Ou bien vous dites, je trouve que c'est juste à la limite. Si je me retrouve dans un endroit où j'ai rien d'autre, je me fie à ça, sinon pas. Ou encore, vous dites, je ne suis pas convaincu et je suis strict. Oui. C'est une question sérieuse, une vraie question. On peut arriver à d'autres réponses, mais c'est une question sérieuse. C'est pas arbitraire. Voilà.
Merci beaucoup.
Comme c'est l'heure de l'année là, on va remercier le grand rabbin Folger pour cette excellente exposée, pour les promesses et toutes les intuitions qu'il nous a permis de recueillir, en espérant bientôt avoir sa liste, et en espérant aussi qu'en France, peut-être aussi, j'ai entendu l'appel, le sécuritaire aussi, peut-être au niveau de l'Alsace, puisque maintenant l'Alsace va devenir une entité unique, peut-être qu'on va développer avec nos collègues du Haut-Rhin des listes, ou en tout cas des titres, des marques qui pourraient éventuellement être autorisé en l'absence d'autres produits équivalents sous Herscher. Je voudrais, à la demande du rabbin Koshmigan, remercier toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette exceptionnelle journée. D'abord, le remercier, le féliciter, Koshmigan, qui a été vraiment l'architecte. Par modestie, il était très très réservé, mais il était vraiment derrière toute cette organisation, avec également notre collègue Mendy Salama. Remercier toutes, donc, en leur nom et à travers tous nos collègues ici présents, remercier M. Orfouna Samuel, directeur du département de Kashrout, M. Richard Schneff, qui dès ce matin à l'aube était déjà là à préparer les stands, M. Jean-Bernard Fortis, M. Simon Bitton, la communauté qu'on a un peu oubliée, mais qui est quand même présente, ne serait-ce que par le fait qu'elle nous permet d'utiliser tous les locaux, ainsi que tout le staff, M. Patrick Hennel, le concierge sans lequel rien n'aurait pu non plus se faire, Raphaël Bloch, le bureau, la communication, les belles affiches que vous avez pu voir, et tous les acteurs de cette journée, alors des plus connus jusqu'au plus humble, annonceurs et commerçants, associations, participants aux ateliers culinaires, les rabbinimes qui sont venus, le rabbin Sperlal, le rabbin Fison, qui est le rabbin Folger, le rabbin Eman, le rabbin Shkinevich, les chopatim, les enseignants, les dirigeants de société, le chef sommelier, les restaurateurs, les traiteurs, les peintres et auteurs, la commission communication, Patrick Hirsch et Dan Leclerc, Nick Nafou, David Bloch, M. Mevorach, je crois que toute la communauté, je dirais l'ensemble du Sibon de Strasbourg s'est mobilisé. Je crois que c'était une journée absolument exceptionnelle. Je ne sais pas si l'an prochain nous pourrons la refaire telle quelle, mais certainement nous la ferons peut-être entre des locaux encore plus étendus, parce que je crois que ça se serrait un petit peu dans le hold-up. Pourquoi pas, nous avons de grands espaces à Strasbourg. Paris est lancé pour l'année prochaine, si vous le voulez bien. Merci à vous tous, surtout les deux.
Excusez-moi, je peux poser une petite question à propos de...